Bonjour. La section de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche et des Cazeville et CFM ont choisi cette année de vous présenter le Pacte pour les droits et la citoyenneté, signé par plus de 49 organisations associatives et syndicales, parmi lesquelles la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. C'est important dans le contexte actuel. Le rôle du pacte, c'est de faire entendre la voix de la société civile et d'interpeller ceux qui sollicitent les suffrages des citoyens. Nos organisations placent au cœur de l'éthique démocratique les libertés individuelles et collectives, le respect de l'égalité et l'effectivité des solidarités. C'est pourquoi nous considérons que le temps est venu de réagir et de construire un nouveau vivre ensemble, un nouveau contrat citoyen. Il y a urgence. Aujourd'hui, Serge Calmette reçoit Pierre Tournemire, vice-président de la Ligue de l'enseignement. Et bien sûr, nous écouterons le billet d'humeur de Dominique Ladé.
Chez nous disent les femmes enjouées. Pour vous, c'est quoi vivre ensemble ?
Dans notre République, le vivre ensemble est basé sur la laïcité.
C'est quoi vivre ensemble ? Je laisse la parole à monsieur.
Bien sûr.
Ah, le vivre ensemble, c'est prendre conscience qu'on est tous sur un petit bout de terre et qui n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde en général.
Partager.
Côtoyer l'autre sans chercher à lui nuire. Et alors si on en faisait une règle de conduite numéro un et obligatoire, je crois que tout irait bien. C'est-à-dire que les gens auraient tous à manger sur terre, tout le monde se sourirait, on se parlerait avec politesse et délicatesse, on s'offrirait des fleurs et tout irait bien dans ce meilleur des mondes que nous avérons incapable de faire et de réaliser. Regardez.
Je ne sais pas si c'est toujours possible. Vivre ensemble, ce serait communiquer et que nous aussi, nous sommes dans le partage de la parole et de bien d'autres choses, du territoire, de l'espace public, autant que de l'espace privé.
Reconnaître les autres, en même temps, pouvoir échanger.
On sait que c'est complètement difficile, mais il faudrait bien tendre à ça parce que l'enrichissement est mutuel quand il s'agit de ce type de vivre ensemble.
C'est partager tout ce qui nous environne.
Vivre en harmonie, en se comprenant les uns les autres.
C'est accepter d'avoir des différences. C'est accepter de ne pas être tous identiques.
C'est développer des liens qui nous permettent de nous comprendre, surtout lorsque nous sommes différents. Quand je dis différents, je veux dire différents socialement, différents dans les activités de travail, entre les travailleurs et les chômeurs, différents de la couleur de la peau, la religion, etc. Je pense qu'on a tous à échanger, c'est ça le vivre ensemble.
Pour vous, c'est quoi vivre ensemble ou le vivre ensemble ? Alors le vivre ensemble, c'est un néologisme qui commence à me fatiguer un petit peu. Je dois le reconnaître, je trouve que ça a quelque chose un peu de la LQR, quoi. Espèce de façon, bon, on n'a plus de balayeurs, on a des techniciens de surface, on n'a plus de relations sociales, on a un vivre ensemble. Bon, et on nous parle de remettre en place le vivre ensemble à une époque où on passe son temps à briser les liens sociaux, à stigmatiser les différences. Le vivre ensemble aujourd'hui, ça me paraît un peu fumeux.
Que pensez-vous de l'expression des différences dans notre société ? Est-elle supportable ? Pourquoi ?
L'expression des différences ?
Les différences dans notre société. Oh, ça, c'est un vaste sujet.
Les différences dans notre société sont une réalité. Maintenant, je dirais que c'est très insupportable dans la mesure où on fait des distinguos entre les gens qui ont la possibilité de pouvoir accès à la connaissance, à la culture, et puis ceux qui n'ont pas cette chance. C'est une société très injuste qui fait que c'est véritablement insupportable.
Probablement qu'il y en aurait moins s'il n'y avait pas un couillon au départ qui s'était approprié la terre et qui avait décidé qu'il pouvait la vendre et revendre des petites parcelles aux autres. C'est, voilà, toute la différence vient de là, je crois, depuis le début.
Je ne sais pas comment on arrivera à estomper ces différences-là.
Le gros problème, c'est que l'individualisme fait que on a du mal à s'accepter les uns les autres. Bon, alors c'est très difficile de vivre ensemble.
Si on parle de la différence des revenus, et elle est absolument insupportable, de la différence qu'on fait entre les couches sociales en se disant que les uns sont meilleurs que les autres, ça c'est vraiment insupportable.
Non, elles ne sont pas supportables, ça me paraît une évidence, simplement parce que tomber dans un système totalement manichéen, mais où le principe c'est pas qu'il y a le bien et le mal, c'est qu'il y a les riches et les pauvres, et le seuil de différence entre pauvres et riches est devenu totalement démentiel, il n'y a plus de classe moyenne, donc déjà au niveau social c'est devenu terrifiant. Et puis même pour ce qui est de toute façon pour l'accès de l'ensemble de la population à l'éducation, à l'emploi, des choses de ce genre, on se rend bien compte que Jean Durand de Neuilly trouve plus facilement du travail que Abdel de Saint-Denis. Donc voilà, là aussi, il y a tout un jeu sur la différence. Je trouve qu'actuellement en France, on fait tout pour cristalliser les différences et complètement les ostraciser, essayer de briser tout lien social, effectivement. On en revient toujours à ça, quoi. Une population désunie est une population beaucoup plus facile à tenir, hein, au bout du compte.
Quelle lutte devons-nous mener ? Résistant, comme nous a dit Essel.
L'intérêt général doit-il primer sur l'intérêt individuel ?
Ah, vaste question. Vous avez 4 heures ? Je comprends très bien qu'on veuille relier Bordeaux à Toulouse le plus rapidement possible en faisant une nouvelle ligne de TGV. En attendant, quand on voit les choix des parcours, On voit des zones d'évitement qui correspondent à des zones de propriété, de petits hobros locaux qui ne sont absolument pas touchés, où il n'y a pas un bâtiment. Et par contre, on voit des villages traversés. Donc là, l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers, on peut se poser des questions, quoi, forcément.
Ça sera de dure lutte par les temps qui courent que de continuer à se bagarrer pour l'intérêt général. Le service public et la préservation du service public en fait partie. Il est bien mis à mal actuellement.
L'intérêt individuel doit se fondre dans l'intérêt général. Mais quel intérêt général? Qui décide de l'intérêt général? L'intérêt général, la plupart du temps, c'est l'intérêt de classe. Alors moi, je ne suis pas d'accord. L'intérêt général, quand c'est celui du monde du travail, je suis d'accord. Mais quand c'est l'intérêt général des dirigeants, des responsables d'armée, etc., non, je ne suis pas d'accord.
Il faut savoir partager les choses.
Bien évidemment.
Dans toute société moderne, c'est bien obligé que l'intérêt général profite après à tout le monde individuellement. Mais c'est d'abord l'intérêt général qui devrait primer.
Sinon, après, c'est chacun pour soi et c'est l'anarchie complète, quoi.
Attention, il doit y avoir des garde-fous. Parce que rapidement, on fait une dictature à l'envers, si vous voulez.
Absolument.
Non, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux.
L'école contribue-t-elle à la compréhension entre les personnes et la transmission des valeurs communes?
C'est un vaste sujet.
Elle devrait, cher monsieur, elle devrait. Elle le fait quand même, faut pas raconter l'histoire, elle le fait, mais c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses parce qu'on est très intoxiqué par une certaine propagande qui veut tout privatiser. Ceci dit, avec l'enseignement au niveau des élèves en particulier, il y a des problèmes qui sont pas peut-être dus au milieu enseignant ou à l'école, on va dire d'une manière générale, mais plutôt aux structures familiales qui sont un petit peu délinquantes, quoi.
L'école est très ambiguë.
Ce sont des lieux d'épanouissement mutuel et de croisement des individus de toutes catégories socio-professionnelles et espérons que ça continue.
Basé sur l'élitisme.
C'est un des rares lieux où se croisent justement toutes les différences.
Mais qui n'est pas basé sur l'individu.
L'école... Il manque, disons, le matin en arrivant à l'école, la petite ligne de morale que nous, on avait à une certaine époque.
Elle est sur le collectif, elle n'est pas sur l'individu. Et ça, c'est quand même fort dommage, dans la mesure où il y a tellement de laissés pour compte à l'arrivée.
Et est-ce que l'école se comporte toujours de telle manière à ce qu'elle transmette, justement, les bonnes valeurs, les bonnes décisions?
L'école doit, et c'est vraiment absolument l'un des devoirs de l'école, je pense, que de défendre ce type de valeurs. L'école fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'on lui donne. L'école, qui plus est, se retrouve avec des programmes de plus en plus orientés. On n'étudie plus l'histoire, on étudie les cultures religieuses. C'est plus vraiment de l'éducation civique aujourd'hui. On nous explique quand même un peu plus quels sont nos devoirs que nos droits. Donc, l'école est devenue un endroit où le manque de moyens et le strict formatage par des instances supérieures des cours à assurer fait que je suis pas certain que le rôle soit pleinement assumé à ce niveau-là.
Il faudrait poser la question à des instits, à des profs. Moi, je suis pas certain que la mission imposée par les ministres depuis une trentaine d'années soit véritablement dans cette ligne-là. On applique des programmes. L'école, d'ailleurs, c'est quand même aussi une des premières institutions qui pratiquent la sélection. On a chaque année 150 000, 170 000 élèves qui sortent de l'éducation nationale sans aucun diplôme. Dans des pays où on parle de haute technologie, c'est inconcevable, quoi. Je suis pas sûr qu'elle réponde aujourd'hui à sa mission, quoi, mais...
Je suis enseignante, hein, bon, à un autre niveau, au niveau des plus grands, mais... C'est pareil. Et là, l'histoire a un rôle important, mais pas l'histoire influencée par les desiderata du gouvernement. C'est pas possible, ça. Enfin, les profs d'histoire, ils sont formés, ils sont là, et puis ils ont un auditoire. Et croyez pas, les jeunes, ils savent aussi réagir, hein. On peut pas dire n'importe quoi.
C'est un élément fondamental du vivre ensemble.
Non, absolument pas. Je pense que tout est à revoir et à refaire dans le système éducatif.
J'ai également le même avis, et c'est là le problème. Enfin, c'est pas mon avis qui est un problème, mais le...
L'école, c'est l'intelligence en cadeau, c'est l'instruction, c'est ce qu'on donne, c'est le cadeau de la République, c'est le cadeau laïque, c'est indispensable. L'école, c'est l'école, et c'est sacré.
Avez-vous confiance dans l'avenir, pour vous-même et pour la société ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est bien embarrassé et bien triste. Mais moi, j'ai tendance à vouloir faire confiance à la génération qui arrive. Nous, depuis plus de 60 ans, ça y est, on a fini d'inventer, quoi. Laissons inventer et laissons la place.
Confiance à l'avenir, oui, il faut être confiant, parce que de toute façon, on va s'adapter, on va trouver une solution. On est obligé de vivre ensemble, donc il faudra bien que l'on finisse par s'entendre.
Pour les enfants, je sais pas, on verra comment tout peut basculer, on sait pas trop.
Je suis un optimiste inquiet, mais optimiste quand même. J'y crois l'avenir, mais ça viendra pas comme ça, quoi.
Confiance, non. Je dois reconnaître qu'actuellement, je suis particulièrement extrêmement pessimiste, mais c'est peut-être de nature, j'en sais rien. De toute façon, il est évident que malheureusement, la société, c'est devenu un phénomène global, qu'on peut absolument pas se contenter de se regarder le nombril au niveau occidental. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que on est dans une situation de tension politique, culturelle, religieuse et économique qui est assez désagréable. Et puis sur certaines choses, il y a des choses qui ressemblent à des périodes qu'on n'a pas aimées. C'est vrai que entre la crise, la montée de l'extrême droite en Occident ou de droite extrêmement dure, il y a des relents, d'avant-guerre, je crains un peu, des retours de certaines grosses fortunes qui décident un peu plus que les politiques de ce qui doit se faire.
Moi j'ai une formule, je dis qu'il faudra que la société devienne plus intelligente. L'économie au jour d'aujourd'hui ne répond pas aux besoins de l'ensemble de la collectivité, des peuples à travers le monde. C'est une oligarchie plutocrate qui s'accapare l'ensemble des richesses du monde et un petit nombre comme ça, et donc du coup l'ensemble des peuples, eux, on voit bien, que ce soit en Tunisie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, enfin un peu partout dans le monde d'ailleurs, les gens se révoltent parce que ils n'ont même plus le besoin nécessaire, le minimum vital pour vivre dignement.
C'est en permettant d'échanger, en faisant prendre conscience à l'ensemble de la population de l'importance du vivre ensemble, que ça permettra d'améliorer les choses. Je ne dis pas que tout sera parfait, parce qu'il ne faut pas se leurrer.
Bon, moi, je suis une impénitente optimiste, mais parce que je me bats. Parce que je me bats pour une société différente depuis très longtemps.
Oui, dans la mesure où le destin appartient à chacun et je crois en l'intelligence collective.
On va tellement vite que c'est incroyable, tout change.
Monsieur Bettencourt est mort, mais la bête remue encore.
Donc je pense que la première question que l'on doit poser à Pierre Tournemire, c'est la suivante. Pourquoi faut-il aujourd'hui se préoccuper de vivre ensemble? C'est une question qui n'avait pas lieu d'être il y a encore quelques décennies. Tout au moins, elle ne se posait pas avec une telle acuité. Et aujourd'hui, par contre, on est en droit de se poser des questions concernant l'origine de cette évolution. On peut penser que de nouvelles conditions sont apparues qui ont débouché sur une dégradation des citoyens dans la République. Par conséquent, pourquoi faut-il aujourd'hui se préoccuper de cette question?
C'est en effet une vraie question. Pour imaginer que les individus étant obligés de vivre pour pouvoir s'épanouir et continuer à exister, de vivre en société, qu'il soit évident qu'ils puissent cohabiter avec d'autres personnes sans avoir les mêmes origines, les mêmes conditions sociales, sans obliger à penser la même chose, sans avoir les mêmes comportements. Et pourtant, depuis toujours, on s'aperçoit que c'est compliqué. Mais tu as raison de souligner que ça devient particulièrement difficile aujourd'hui parce que nous sommes quand même dans un monde qui est à la fois inquiétant et complexe. Nous vivons des transformations sans précédent au niveau technologique, au niveau de la communication, au niveau des relations, etc. Et on pourrait imaginer que ces évolutions gigantesques, rapides, amènent à un monde plus solidaire. Or, on constate que les inégalités non seulement perdurent, mais s'aggravent. Il faut quand même savoir qu'un habitant de la planète sur quatre vit aujourd'hui avec moins d'un euro par mois. Et qu'il y a 80 millions de gens en Europe qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et qu'à Villefranche même, on constate que de plus en plus, les questions se posent pour beaucoup de gens. Donc dans ce contexte-là, il est clair que la généralisation du système capitaliste à l'échelle de la planète a généré à la fois plus de pouvoir et de richesse pour une minorité, à aggraver les inégalités, à réduire l'utilisation des ressources, et met en cause la démocratie. Aujourd'hui, tout est marchandisé, l'éducation, la culture, etc. Toute une série de la santé font aujourd'hui l'objet du marché. Et dans ce contexte-là, eh bien, on voit se généraliser les peurs, le repli de l'autre. On est dans une société de concurrence généralisée, et de contrôle qui est fondée sur la défense mutuelle, sur la défiance mutuelle, sur la culpabilisation, sur la peur et sur le fait que les échanges entre les personnes seraient uniquement liés aux échanges rémunérés de services, de prestations, etc. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut, je crois, mettre à l'ordre du jour un nouveau contrat social et politique qui soit fondé sur une Europe plus politique, plus sociale, en tout cas renforcée par rapport à ça.
Mais tu as prononcé le mot tout à l'heure « origine ». C'est-à-dire qu'il est vrai que les conditions qui ont débouché sur la situation actuelle se présentent sous une multitude de formes. Mais tu as prononcé le mot « origine », c'est-à-dire est-ce qu'entrerait en jeu, justement, beaucoup plus qu'autrefois, l'origine donc des citoyens ? C'est-à-dire est-ce que, en quelque sorte, l'immigration jouerait un rôle, justement, dans cette dégradation des rapports entre les hommes ?
Oui, il ne faut pas être naïf par rapport à ça. C'est-à-dire que notre société a toujours été très diverse. Il y a toujours eu des inégalités très fortes. Et puis, sûrement que la société du IIe siècle en France était plus diverse qu'aujourd'hui. Un Occitan ne comprenait pas un Breton, un Corse ou un Basque. Mais ces diversités étaient à l'échelle d'un pays, de gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se rencontraient jamais. Aujourd'hui, la diversité, elle est vécue au quotidien par des gens qui se fréquentent sans arrêt et qui, effectivement, ont des origines, des cultures, des relations, des convictions, des croyances, des modes de vie qui sont tout à fait différents. Et ça pose, effectivement, toute une série de problèmes parce que la tendance naturelle de l'individu, c'est de considérer qu'il faut qu'il, en gros, il partage les mêmes valeurs et les mêmes façons de se comporter. Donc, aujourd'hui, ce qui devrait être une richesse, savoir que le fait que ces cultures différentes devraient être ferments d'innovation, de source de justement d'enthousiasme pour construire des choses, s'avère être aujourd'hui des inconvénients. Et on voit bien que exploités notamment par certains partis politiques ou certaines personnes qui s'appuient justement sur ces réactions un petit peu primaires, xénophobes, font que aujourd'hui effectivement la situation s'aggrave et qu'il est urgent de reposer les problèmes si on veut maintenir une cohésion sociale.
Eh bien, lorsqu'on a défini les problèmes justement qui débouchent sur cette difficulté à vivre ensemble, je pense qu'il doit être plus facile, dans la mesure où on les a bien cernés, il doit être plus facile, évidemment, de leur apporter remède. Alors, quelles sont les conditions de vivre ensemble de façon harmonieuse ?
Je crois que les premières des conditions, c'est la confiance. D'abord, la confiance en soi. On est quand même dans un monde où, on voit bien, les sondages le démontrent tous les jours, les gens n'ont plus confiance, ni en eux, ni à l'avenir, ni dans la société, ils craignent pour tout et n'importe quoi, etc. Donc d'abord une confiance en soi, dans l'autre et dans les institutions. Et que s'il n'y a pas cette confiance-là, dans l'avenir, il n'y a pas de possibilité. La France est dans une situation un petit peu paradoxale. À la fois, on voit que la natalité progresse, ce qui devrait être source, justement, de certitude sur l'avenir, à partir du moment où on fait des enfants, c'est qu'on a la conviction que le monde continue à se pérenniser, etc. Et en même temps, c'est le pays dans l'Europe, enfin dans les pays démocratie avancée, qui est est le plus inquiet sur l'avenir. Donc, je pense qu'il faut d'abord donner la confiance, ce qui suppose que notre société soit à la fois plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et qu'elle soit composée d'individus libres et responsables. Il faut bien voir que nous sommes quand même à une époque où quatre générations vivent et sont durablement ensemble. Et dans un monde qui en plus se rétrécit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit, on est à l'heure, on parlait de la Tunisie, on sait à l'heure près, à la minute près, ce qui va se passer à des centaines de milliers de kilomètres. Donc, dans un monde qui se restreint, il est tout à fait essentiel de faire en sorte que, justement, cette société soit plus juste. Ce qui suppose à la fois qu'elle prenne en compte la dimension du progrès. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de progrès. Et en même temps, qu'on fasse en sorte qu'on concilie cette notion de progrès avec la précaution. Et aujourd'hui, le principe de précaution, qui est souvent mis en avant, qui est sûrement très important, mais ne doit pas mettre en cause le principe de progrès. Il n'y a pas de progrès sans risque. Le fait de marcher, c'est prendre le risque de se mettre en déséquilibre. Et si on ne prend pas ce risque, on ne marche jamais. Donc il faut à la fois maintenir cette notion de progrès, donc prendre des risques, et en même temps, l'histoire nous a montré que ces risques pouvaient être tout à fait préjudiciables à l'avenir de l'humanité. Donc il faut aussi rectifier avec le principe de précaution. Ce qui suppose que notre économie ne soit pas centré uniquement sur l'aspect quantitatif, mais soit centré sur l'individu et sur sa participation. D'autre part, ça suppose qu'on fasse le lien entre ce qui est l'individu, ses aspirations de plus en plus légitimes, et en même temps l'aspect général et collectif. Et qu'il faut qu'on fasse le pari que l'unité se fonde sur la diversité et que la reconnaissance mutuelle des personnes et des cultures est tout à fait essentielle à notre société. Et pour ça, je pense que la laïcité est une laïcité bien comprise et la meilleure façon d'organiser un fonctionnement harmonieux, ce qui suppose de changer des mentalités. Et on voit bien que c'est une question qui est tout à fait essentielle, ce qui suppose un gigantesque travail d'éducation, pas simplement scolaire, mais aussi tout au long de la vie, et l'éducation populaire tout à fait importante par rapport à ça.
Alors je voudrais revenir sur la première condition que tu as énoncée tout à l'heure, la confiance en soi. C'est la première condition pour parvenir justement à faire vivre de façon harmonieuse les gens dans notre pays. Mais cette confiance en soi, tu as ajouté confiance en soi, confiance dans l'autre et dans les institutions, et il faut donc pour cela que l'on vive dans une société juste, solidaire et fraternelle. Bon, ce sont des mots, mais concrètement, que signifie une société juste, une société solidaire, une société fraternelle? Est-ce que la société actuelle s'écarte justement de ces qualificatifs ou est-ce que, dans une certaine mesure, elle s'en rapproche? J'aimerais avoir quelques précisions concernant justement ce que signifie se rapprocher donc des autres dans le cadre d'une société juste, solidaire ou fraternelle.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que la généralisation, je l'ai dit tout à l'heure, du système capitaliste va à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accent mis sur l'unique marché fait en sorte qu'on ne va pas dans ce sens-là. Et en même temps, c'est vrai que ça correspond à une série d'attentes des personnes, de flexibilité. J'y revenais dans les comment s'y prendre. Je pense qu'une des conditions essentielles, c'est la reconnaissance des individus dans une société qui est diverse. Et il faut absolument qu'on tienne les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que, à la fois, il y a à prendre en compte les différences des personnes comme étant un fait, et que ce fait-là doit être pris en compte, et que si on ne respecte pas ces différences, donc la dignité des personnes dans leur reconnaissance individuelle, il n'y a rien de possible, et en même temps, il faut qu'on vive ensemble, et pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait des valeurs partagées, donc qu'on dépasse ces différences. Donc il faut qu'on arrive à concilier la reconnaissance des particularismes individuels avec l'intérêt général. Et ça suppose effectivement une société où l'individu est au centre des préoccupations. Or, on est dans un contexte social où on met l'accent sur la concurrence, sur la promotion individuelle, sur toute une série de choses qui vont à l'encontre de ça. Donc l'essentiel, c'est bien de remettre l'individu au cœur du développement économique, qu'on mette cet individu au cœur du développement économique, qu'il soit au service d'une société, par conséquent qu'on pense en compte aux problèmes de écologique, qu'on pense en compte les problèmes de développement durable, etc. Donc que tous les problèmes soient pris en compte pour que cet individu soit à la fois lui-même et qu'il puisse être reconnu comme tel, donc accepté avec ses particularismes, etc. Mais que ces particularismes-là ne l'autorisent pas à prendre le pas sur les intérêts des autres et donc sur l'intérêt général.
Oui, effectivement, là nous avons abordé donc la deuxième condition que tu as énumérée tout à l'heure, c'est-à-dire le lien entre l'individu et le collectif. C'est cela. Je poserai quand même une question concernant le terme individu. C'est un terme dont je me méfie parce que qui dit individu dit individualisme et qui dit individualisme débouche évidemment sur le modèle politique néolibéral qui prône l'individualisme en outrance. Alors, est-ce qu'au lieu d'individu, on ne pourrait pas utiliser le terme « personne » puisque la personne, c'est un individu, mais formé dans le cadre de la société, modelé par la société, c'est-à-dire qui est construit par la société.
Oui, je ne suis pas en désaccord avec ça. Il faut bien voir que notre société génère aujourd'hui à la fois le progrès de l'autonomie de la personne, donc de son individualisation. Hier, on était dans un contexte social où l'individu était prisonnier des appréciations d'un parti politique, d'un syndicat, d'un environnement social, et qu'il ne pouvait pas exprimer ce qu'il pensait, lui. Et parce que des solidarités faisaient que, voilà, il était pris par un groupe. Aujourd'hui, il a envie d'exprimer sa singularité. C'est plutôt un progrès lié à l'évolution de l'éducation, de la culture, etc. En même temps, ça peut générer des replis sur soi, de l'égoïsme, et je crois que faut qu'on prenne en compte que toute société, à la fois, et tout progrès génère des inconvénients, et qu'en même temps, eh bien, ces inconvénients sont aussi porteurs d'espoir. Donc, oui, il faut que la personne soit reconnue pour ce qu'elle est, donc dans sa singularité individuelle, et en même temps, pour pouvoir vivre en société, il faut aussi qu'elle partage des valeurs avec d'autres.
Au sujet donc de cette question-là concernant la place de la personne dans la société. Tu as déclaré tout à l'heure que l'unité se fonde sur la diversité. Bon, il est certain que l'uniformisation, c'est difficile à dire, de l'ensemble des personnes constituant une société ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif. Mais cette diversité doit quand même avoir des limites. Il est bien certain que, d'ailleurs, la diversité actuelle, elle est telle chez nous, et on le voit par exemple avec ceux qui gagnent jusqu'à 1000 fois le SMIC. C'est quand même quelque chose qui est tout nouveau et qui est quand même une réalité. Je pense que cette diversité, lorsqu'elle prend des proportions trop grandes, nuit justement à la cohésion sociale. Alors, quelles sont les limites entre lesquelles cette diversité peut se développer ?
Les limites, c'est d'une part la dignité des personnes, la justice sociale et le fait que il faut prendre en compte l'intérêt général. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on sorte de cette appréciation un petit peu manichéenne où il y aurait l'individu ou le collectif. Notre République, pour des raisons historiques, s'est construite effectivement sur le fait qu'il fallait gommer la diversité parce qu'il y avait toute une série de problèmes et donc il fallait une unification qui entraînait plus ou moins l'uniformisation. Je pense qu'aujourd'hui notre République est suffisamment installée pour qu'elle soit en capacité de prendre en compte la diversité. Mais cette diversité ne veut pas dire effectivement qu'il faut pérenniser des injustices sociales que tu soulignais, qu'il faut pérenniser des revendications qui vont à l'encontre de l'intérêt des libertés fondamentales ou de l'intérêt des personnes. Donc je pense que la reconnaissance de la diversité, c'est la reconnaissance de l'égale dignité des personnes et des cultures. Et qu'à partir de là, on doit pouvoir s'appuyer sur ça pour construire une unité qui prenne en compte justement l'intérêt général, l'intérêt des personnes. Ce qui suppose que, effectivement, il y a une série de conditions. Moi, j'en vois quatre essentielles. La première de ces conditions, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on repense l'action politique. Et je pourrais en dire deux mots, parce que si on reprend pas, si on repense pas l'action publique aujourd'hui, notamment par rapport à des dimensions économiques et sociales, on va vers des inconvénients majeurs que tu étais en train de souligner. La deuxième des conditions, c'est que il faut que aujourd'hui on renouvelle les pratiques démocratiques. Et aussi, je pourrais en dire deux mots. La troisième des conditions, c'est qu'il faut repenser les solidarités et puis qu'il faut reconnaître les individus pour ce qu'ils sont avec leur mémoire, etc. Et ça, je pourrais y revenir. Alors, je sais pas si tu veux que je développe ces quatre points, mais ça me semble tout à fait les conditions essentielles pour qu'on puisse justement aujourd'hui créer les conditions de vivre ensemble.
Oui, en quelque sorte, si je comprends bien, ta façon de concevoir une société dans laquelle tout fonctionne très bien se situe d'une part entre le jacobinisme, tu as fait allusion tout à l'heure justement à la mise en place par la République après 1789 d'une société dans laquelle les différences étaient gommées au maximum et il n'y avait qu'un lien entre les hommes, ils étaient français, un point c'est tout. Un type d'ailleurs de société qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisque ça n'existe pas en Espagne où il y a diverses régions reconnues comme telles, ça n'existe pas dans notre pays où les, je pense en particulier à la Bulgarie où j'ai eu l'occasion d'aller voir la situation, où on retrouve trois types de personnes, de citoyens, les Bulgares d'abord, les Turcs ensuite et puis les Roms, les Tziganes. Et inutile de dire que dans un type de société telle que celle-là, eh bien, c'est le communautarisme qui prime. Or, le communautarisme, c'est en quelque sorte l'autre limite, à l'opposé du jacobinisme, l'autre limite qu'il ne faut pas dépasser, je crois. Alors, qu'en est-il actuellement?
Oui. Moi, je pose pas les deux comme ça. C'est-à-dire que, d'abord, je me méfie de ce mot communautarisme, jacobinisme. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut, effectivement, qu'on prenne en compte l'égale dignité des personnes et l'égalité en droit des personnes. Ça, c'est essentiel. On peut reconnaître, effectivement, au jacobinisme français d'avoir apporté ça. D'avoir défini, dans la Constitution, cette égalité en droit et cette égalité en dignité. On voit bien que, dans les faits, il n'en est pas ainsi. Et que l'égalité en droit n'entraîne pas forcément l'égalité des conditions. On le voit tous les jours. Et que, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à le développement de la misère, met en évidence que cette république idéale, elle est confrontée en permanence à la république réelle. Et que si on veut pouvoir agir sur les choses, il faut qu'on ne perde pas de vue la république idéale dans ses principes fondamentaux, parce que c'est bien ça le but à atteindre, mais il faut en même temps agir sur la république réelle pour qu'elle mette un terme à ces discriminations, à ces injustices, etc. Ce qui suppose de prendre en compte la diversité. Et par rapport à ça, les solidarités communautaires ne sont pas forcément un inconvénient. Au contraire, elles peuvent permettre de participer de ça. Ce qu'il faut éviter, c'est l'enfermement. Et ce qu'on pourrait qualifier de communautarisme, ce serait effectivement une communauté qui obéirait à des lois qui lui sont propres et qui s'imposent à ses membres, même s'ils ne les partagent pas. Ça, c'est tout à fait intolérable. Je pense qu'il n'y a pas de risque en France aujourd'hui que ce système juridique se mette en place. Le risque, c'est des enfermements communautaires qui pourraient effectivement se perdurer si on ne reconnaît pas justement la dignité des personnes, leur égalité, mais leur égalité réelle. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, méfions-nous de formules un petit peu incantatoires de rappel des grands principes républicains de cette république idéale pour s'exonérer d'agir sur la république réelle.
Donc, la deuxième question qui se posait, c'était quelles sont les conditions qui permettront de vivre ensemble de façon harmonieuse. Je crois que tu as répondu de façon très complète à cette question et tu as même débordé sur la troisième question que je m'apprêtais à te poser, comment y parvenir. Tu as débordé dans une certaine mesure, évidemment.
Alors, j'ai donné les quatre points qui me paraissaient essentiels. Je veux bien, en quelques minutes, dire un petit peu par rapport à ça. Repenser l'action publique, ça me paraît essentiel. Hier, on imaginait que seul l'État était porteur de l'intérêt général et qu'il était seul capable de satisfaire les besoins essentiels dans une perspective d'égalité. Cette donnée est aujourd'hui bouleversée, à la fois par la diversification des demandes, à la fois par les exigences de réponses adaptées et personnalisées, par le fait aussi qu'il y a une multiplication d'acteurs publics, et puis il y a aussi des carences des services publics, qui font que aujourd'hui on est dans un contexte d'une exigence de plus grande efficacité face à la concurrence, et seul le marché serait incapacité de répondre à ça. Or, on voit bien que le marché, il est porteur de plus en plus d'inégalités, il est générateur d'inconvénients. Et si on maintient, je pense, cette opposition entre ce marché qui serait efficace mais inégalitaire et puis un État qui serait autoritaire et répressif, il y a un gros danger pour la cohésion sociale. Donc il est essentiel que on repense effectivement une société qui permette de rompre avec cette logique et pour d'avoir des modalités adaptées de réponse sociale, donc qu'on ait des services publics dans les conditions qui conviennent, sur les objets qui sont pertinents et qui fonctionnent avec peut-être des statuts différents. On n'est pas obligé d'avoir simplement des services publics étatiques. On peut imaginer que des associations, que des collectivités, que voire même des structures privées, pour peu qu'elles aient des missions d'intérêt général, répondent à ce fonctionnement. La deuxième condition, c'est de repenser les pratiques démocratiques. Aujourd'hui, on est dans un système où, effectivement, on passe d'une démocratie qui est le pouvoir des citoyens vers une oligarchie qui est le pouvoir de quelques-uns. Et de moins en moins de citoyens participent aux élections, etc., c'est parce qu'il y a effectivement une perte de confiance dans cette démocratie. Donc, il est nécessaire, aujourd'hui, je pense qu'on réaffirme vraiment la séparation stricte des pouvoirs. C'est impensable que le pouvoir exécutif se mêle du législatif ou du pouvoir judiciaire comme il le fait aujourd'hui. Il y a des pratiques qui sont pas possibles. Le cumul des mandats sont des pratiques qui sont aujourd'hui tout à fait inacceptables. Bref, il faut qu'on redonne confiance dans une pratique démocratique. La troisième condition, c'est de repenser les solidarités. Aujourd'hui, solidarité, c'est pas une nouvelle forme de repenser le caritatif, etc. Non, c'est de recréer les conditions de l'égale participation de tous à la contribution des dépenses publiques en fonction de ses possibilités. Ce qui veut dire qu'il faut d'urgence une réforme fiscale importante. Et enfin, la dernière condition, c'est la politique de la reconnaissance. Je pense qu'il est important, on l'a un petit peu déjà dit, qu'on reconnaisse les individus pour ce qu'ils sont, y compris dans leur histoire personnelle. On vit une société où des gens n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes mémoires, n'ont pas les mêmes cultures, etc. Il faut bien qu'il y ait un partage de ça, y compris quand ces mémoires sont conflictuelles, notamment par rapport à la guerre d'Algérie, etc. Il faut bien qu'on partage des choses pour que la dignité des personnes soit partagée, soit reconnue, pour qu'on puisse construire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'il faut tenir, encore une fois, les deux bouts, à la fois la reconnaissance de l'individualité, de la dignité des personnes, et en même temps le fait que, pour vivre ensemble, il faut quand même respecter des principes généraux, donc des valeurs communes, partagées, pour construire un destin commun.
Oui, en quelque sorte, donc, la solution, elle est typiquement politique.
Absolument.
Absolument politique.
Bien, mais donc, pour qu'elle soit politique, ça suppose une participation de tous. Ça ne peut pas être, effectivement, l'affaire de quelques-uns qui vont réfléchir sur leur Olympe, à savoir quel est le bien commun. Ça suppose une participation citoyenne. Et effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur ces modalités-là. Il est clair que si les partis politiques ont un rôle décisif à jouer dans une démocratie participative, les représentatives, les partis politiques ont un rôle tout à fait décisif. Mais en même temps, il faut que la société civile dans son ensemble, donc les forces syndicales, associatives, que les individus puissent s'exprimer sur des formes qu'il faut tout à fait réinventer pour que cette construction du destin commun soit réellement partagée.
C'est-à-dire, ça revient donc à refuser la confiscation du pouvoir par quelques-uns, ne serait-ce que d'ailleurs non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Il est nécessaire que le fonctionnement d'une municipalité, par exemple, soit parfaitement démocratique, c'est-à-dire que chacun ait le droit de s'exprimer et que, à travers justement les élus, ce soit les citoyens eux-mêmes qui puissent s'exprimer. Puis la deuxième condition aussi, c'est que il faut amener tous les gens qui se désintéressent de tout cela, quelle qu'en soit la raison, peut-être parce qu'ils en ont assez, mais aussi peut-être aussi par manque d'esprit critique. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne se désintéressent de ces questions-là. On voit d'ailleurs que bien souvent, actuellement, en ce qui concerne le Front National, il y a des gens d'origine modeste qui se sentent attirés par le Front National, alors qu'il me semble que la politique du Front National va à l'encontre de leurs intérêts. Par conséquent, arriver à modifier cette situation, mais par la voie démocratique, c'est ce que tu as l'air de proposer. Heureusement d'ailleurs, je pense que c'est la bonne solution. Mais seulement, ce n'est pas un problème qui va être résolu facilement et rapidement.
Absolument. Et ça, il faut prendre en compte qu'en démocratie, il faut prendre en compte le temps. Qu'il n'y a pas de raccourci avec l'histoire. Et que pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique, il faut qu'on sache convaincre et pas contraindre. Parce qu'en démocratie, il n'y a pas de possibilité d'imposer des choses malgré la volonté collective. Il n'y a pas de loi légitime si justement elle ne s'impose pas à la conscience de tous. Par conséquent, il faut qu'il y ait ce travail de conviction, d'où le problème de l'éducation et l'émancipation des personnes. Il faut à la fois qu'on arrive à concilier cet aspect d'émancipation individuelle et l'aspect de reconnaissance de l'intérêt collectif, général. Et c'est tout le pari de la démocratie. Et ça, c'est effectivement, ça suppose du temps. Donc de prendre en compte les personnes pour ce qu'elles sont, l'intérêt général, le fait qu'il faille construire des valeurs partagées sur une formule qui est, je crois, de reconnaître la pluralité des opinions comme étant un bien, et en même temps faire en sorte qu'il faut que les individus soient un peu fraternels, parce que s'il n'y a pas une acceptation de l'autre, on ne peut rien construire ensemble.
Eh bien Pierre, je pense que tu as essayé de faire le tour de la question, mais il est bien évident que il appartient maintenant à chacun d'approfondir les idées que tu as émises. Ceci étant dit, je pense que dans quelques instants, nous allons retrouver le billet d'humeur.
Bonsoir. Il est de tradition d'émettre des vœux en début d'année. Aussi, je me lance dans cet exercice qui lie le passé à l'avenir, espéré. Le premier vœu qui s'impose à moi touche la vie et la santé de tous et de chacun. Et d'abord, que 2011 soit une année qui voit diminuer le nombre de morts dues à la bêtise humaine, à l'égoïsme, au profit, au conflit, et à l'inverse, que se développent toutes les batailles pour que la santé devienne une réalité pour la majorité des êtres humains, sans que leurs revenus, leur classe sociale ou leur origine ethnique soient un frein. Quand on parle de vie et de santé, le premier soin est la nourriture. Et pour tous, en quantité suffisante et en qualité suffisante. Une belle et bonne bataille, mais qui est loin, très loin d'être gagnée. Et ne nous bouchons pas les yeux, ce n'est pas gagné ni en France, ni dans le reste de notre univers. Mon deuxième vœu ira au développement de la liberté. Que nous réussissions non seulement à conserver, et même cela n'est pas gagné, nos espaces de liberté et les droits qu'il nous reste, mais que nous retrouvions la force de reconquérir ceux nombreux qui nous ont été dérobés. J'ai bien dit dérobés. Aucun autre mot ne peut traduire le hold-up réalisé par les dirigeants de notre pays sur les acquis sociaux, sur les biens et le bien-être des habitants de ce pays. La référence en la matière pour moi reste le programme du Conseil national de la Résistance. Les intérêts individuels des uns remplacent maintenant le bien commun. Un jour, sans aucun doute, il faudra poursuivre devant les tribunaux ceux qui ont profité de leur position pour participer au pillage des richesses communes. Trafic d'influence, abus de pouvoir, de position dominante, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics. C'est quotidiennement que cela se passe en toute impunité. Nous avons un devoir de résistance, un devoir de révolte. Le troisième vœu que je formule touche la fraternité et ce que nous appelons le vivre ensemble. Que nous retrouvions les voies de la tolérance, de la laïcité. Que notre pays redevienne un pays où les droits de l'homme aient de nouveau droit de cité. Un pays où il fasse bon vivre, où l'accueil soit de nouveau une valeur humaine vivante. Un pays qui n'érige pas en loi ou en règle le rejet de la différence, l'expulsion de l'étranger, même s'il est intégré, qu'il participe normalement à la vie de notre société, impôts, charges sociales. Un pays où un ministre en exercice est condamné deux fois par la justice de son pays pour racisme et pour avoir oublié la présomption d'innocence. C'est un ministre de l'Intérieur qui reste pourtant en place. C'est sans doute trop banal pour mériter une quelconque sanction. C'est la mise en lumière du mode de pensée et du comportement de nos dirigeants. Et quand je parle de nos dirigeants, je ne parle pas seulement du gouvernement, mais aussi de ceux qui sont, dans tous les domaines, décideurs et qui pensent à leurs intérêts et à ceux de leur clan, au pouvoir plus qu'au devoir, à leur gain plus qu'au développement de l'humain, de ses acquis et de ses connaissances. Vœux pieux ? Vœux en l'air ? Non. Désir de vie, désir d'action, désir de changement, désir d'amélioration collective, mais surtout désir de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce désir redeviendrait-il indécent ? Parfois même hors la loi ? Mais alors, c'est que la loi est illégale. Elle est contre la Constitution à l'origine de notre République, celle que les nantis ont remodelée pour qu'elle réponde à leurs besoins ou envies ou désirs. Pour ces vœux, j'aurai une pensée particulière pour nos frères du Maghreb, tunisiens, algériens, mais aussi marocains, qui sont en lutte violente, qui meurent et souffrent dans un monde qui, malheureusement, image bien ce dont je viens de parler. nos frères ivoiriens aussi, dans l'attente de savoir par qui ils vont être digérés, dirigés. Et pour sûr, êtes-vous sûr que nous, en France et en Europe, nous soyons réellement éloignés de cette réalité? Pour ma part, je ne crois pas. Même si, et ce n'est pas rien, nous gardons pour l'instant le droit de parole, le droit d'opinion. Même si, alors en 2011, il reste urgent de se mobiliser et de veiller, de combattre et de débattre. La liberté se vit, ou alors elle meurt. Que 2011 soit une année de vie intense pour tous. L'actualité a été très vite, et la technique nous a joué des tours. Tours dont je ne me plaindrai pas puisqu'ils me permettent de rajouter un post-scriptum. Les choses bougent vite en Tunisie. Ce changement, c'est l'espoir. L'espoir pour le peuple tunisien, bien sûr, mais aussi l'espoir en général pour les droits de l'homme. Et les coqs français de se gauser. Certains font référence à 1789. L'exemple universel, évidemment. Il est bien connu que notre pays est le pays des droits de l'homme. Un pays exemplaire. Pauvre, pauvre, pauvre France. La révolution tunisienne est tunisienne et elle prend ancrage dans son histoire, dans l'histoire de son peuple, dans ses grandeurs et dans ses décadences, dans ses souffrances et dans ses joies, dans ses luttes et ses espoirs. Elle puise des forces et des inspirations selon ses acteurs, chez Atatürk qui a réussi à imaginer, mettre en place et faire vivre un état laïque dans un pays musulman, chez Habib Bourguiba, qui lui aussi a mis en place et développé un état laïque qui a développé l'éducation et la formation de haut niveau de son peuple. Il a aussi donné une place de citoyenne libre et éduquée aux femmes tunisiennes. Dans les écrits aussi de politiques ou philosophes d'autres pays, dont certains sont européens et certains sont français, certainement, mais seulement certains. Un peu d'humilité et de vérité. Nous aussi, nous devrions prendre un peu de force et de vigueur, d'exemple dans cette révolution qui a réussi à mettre en fuite, pour l'instant du moins, un homme et le système mafieux qu'il avait mis en place. Ce jour arrivera-t-il en France? Voilà un vœu plein d'espoir.
La section de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche et des Cazevilles et CFM vous ont présenté la première émission sur le thème « Proposition pour un nouveau vivre ensemble ». Thème qui va être notre fil conducteur tout au long de l'année et sur lequel nous organisons une conférence débat avec la participation de Jean-Pierre Dubois, président national de la Ligue des droits de l'homme, le vendredi 15 avril à l'amphithéâtre du lycée Beauregard. Dans notre prochaine émission, nous débattrons des droits sociaux et des services publics et nous vous donnons rendez-vous sur le marché de Villefranche le jeudi 10 février pour le micro-trottoir. Notre section vous présente ses meilleurs vœux 2011 pour une société plus juste et solidaire.